franceinter.fr.
Le journal Laurence Thomas. Laurence, bonjour.
Bonjour à tous. Donner plus de liberté et de sécurité à l'employeur et aux salariés, objectif de la loi travail. L'ultime round de concertation entre gouvernement et partenaires sociaux démarre cet après-midi. Quel rôle ont joué les quatre suspects encore en vie des attentats en Catalogne? C'est ce qu'un juge tente de savoir depuis ce matin. Les auditions ont démarré au tribunal de Madrid. Davantage de mobilité pour les hommes du dispositif Sentinelle. La moitié des 7000 militaires ne devraient plus être sur des postes fixes. Plusieurs d'entre eux ont été pris pour cible ces derniers mois. L'Afghanistan, où le plus long conflit de l'histoire des États-Unis. Plus question d'un retrait des forces américaines. Donald Trump change son fusil d'épaule. Il veut même envoyer davantage de soldats. Le gouvernement de Kaboul salue la décision de Washington de maintenir ses troupes. Mais les talibans promettent déjà le cimetière aux troupes américaines. Dans une Italie encore traumatisée par le séisme d'Amatrice il y a un an. Tremblement de terre hier soir dans la baie de Naples. Au moins 2 morts, 39 blessés, un enfant de 11 ans est encore bloqué sous les décombres. Et puis le sport avec le mondial de rugby féminin en Irlande. Immense défi ce soir pour les Bleus, sortir l'Angleterre tenante du titre et accéder à la finale. Le temps de ce mardi, une très belle journée d'été, Elodie Calac.
Oui, c'est du très beau temps quasiment partout avec du soleil. Il revient sur la Bretagne après une matinée parfois bien nuageuse. En revanche, ça sera plus voilé aujourd'hui entre les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, la Normandie, les Hauts-de-France, avec une petite ondée possible mais pas bien méchante, je vous rassure. Il y aura un peu de vent, d'autant jusqu'en région toulousaine. Et puis en fin de journée, ça pourrait devenir un peu plus sombre sur la côte aquitaine. Là, c'est le vent d'ouest qui va apporter des nuages bas.
Et côté température, ça monte.
C'est largement estival. 26 degrés à Lille cet après-midi, à Nancy, à Trouville-sur-Mer, 29 à Paris, 31 degrés à Rennes, à Nîmes, 33 pour Tours et pour Lyon. C'est dans le sud-ouest qu'il va faire le plus chaud, jusqu'à 37 degrés à Agen, à Montauban. Demain, ce sera encore bien agréable. Alors il faudra quand même se débarrasser de la grisaille matinale sur une bonne moitié ouest. Et puis l'après-midi, ça deviendra chaotique dans le sud, dans l'est, avec quelques ondées et de l'orage pour le sud-ouest.
Elodie Calac de Météo France.
France Inter.
Dernière ligne droite pour la réforme du Code du travail. Les partenaires sociaux sont reçus jusqu'à vendredi au ministère pour un ultime round de concertation. Le MEDEF pourra d'ailleurs consulter en primeur les parties des ordonnances prêtes ou quasi ficelées au ministère du Travail. Seuls les sujets les plus sensibles feront encore l'objet d'arbitrage avant la présentation officielle des ordonnances le 31 août. Et c'est le cas notamment, Maxime Deps, du plafonnement des indemnités prud'homales.
Oui, le fameux plafonnement des dommages et intérêts aux prud'hommes, c'est une vieille marotte. Le gouvernement veut instaurer une sorte de forfait qui permettrait à l'employeur de prévoir à l'avance ce que lui coûterait le licenciement d'un salarié qui l'attaquerait en justice. Ça ne passe pas, à moins que les syndicats n'obtiennent en échange des contreparties sérieuses. Force ouvrière en tête veut que les indemnités légales, celles versées à tout salarié licencié sans exception, soient augmentées singulièrement. On ne sait pas encore jusqu'où ira le gouvernement. Autre point, le périmètre de licenciement, lui aussi fait grincer des dents. À l'avenir, aux yeux des dernières discussions, une multinationales pourraient licencier en France plus facilement, selon les syndicats. Pour cause, il suffira pour les groupes internationaux de justifier de difficultés sur le sol français et non plus au niveau mondial. Les organisations réclament des garde-fous, des garanties suffisantes. Les syndicats qui comptent bien également défendre leur précaré. Le patronat souhaiterait que l'on puisse, dans certains cas, négocier directement avec les salariés. Inutile de dire que ça suffit à faire se lever de nombreux boucliers.
Maxime Deps, alors du côté des syndicats, la CGT et les autres organisations sont d'emblée opposés à cette réforme du Code du travail, mais de là à revoir une mobilisation équivalente au printemps et à l'été 2016 contre la loi El Khomri, il y a une différence de taille cette fois-ci. Force ouvrière n'a pas l'intention de repartir dans les cortèges au bras de la CGT, mais FO surveillera le dossier comme le lait sur le feu. Jean-Claude Mailly, qui était l'invité ce matin de Nicolas Demorand sur France Inter.
Ça dépendra où les curseurs vont tomber, où on est entendu. Où on est entendu, ben on verra. Où on n'est pas entendu, et on mobilisera. C'est aussi simple que ça. Où va se faire le choix ? Qui va faire le choix à la fin ? C'est le président de la République. C'était vrai avec Sarkozy, c'était vrai avec Hollande. Donc ce sera Emmanuel Macron qui fera le choix. Oui, il est de conception économique libérale, c'est pas un scoop. Maintenant, être président de la République, c'est pas obligatoirement la même responsabilité que d'être ministre de l'économie et des finances. Bon. Alors, où il fait le choix politique de dire, voilà, j'écoute les lignes rouges des uns et des autres et j'essaie de trouver une solution, ou il le fait pas, et puis il y aura tension. C'est aussi simple que ça.
Vous l'avez peut-être vécu lors de vos vacances cet été, si vous avez pris l'avion, le cauchemar des files d'attente dans les aéroports, en particulier pour passer la police aux frontières. L'État et Aéroports de Paris, qui gèrent Orly et Roissy, avaient alors annoncé une série de mesures pour fluidifier le cheminement des passagers. Pas plus de 45 minutes d'attente pour les voyageurs non européens, avait même annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Mais le journal Libération s'est procuré une note confidentielle de la haute administration destinée à éclairer le cabinet du ministre de l'Intérieur sur cette situation des aéroports parisiens, et il en ressort que l'engorgement d'Orly et de Roissy a de multiples origines, Laura Lavenne.
D'abord, il y a de plus en plus de voyageurs dans les aéroports parisiens, plus 6% pour les vols internationaux en 2017. Ensuite, les contrôles des passeports par reconnaissance automatisée, sans policiers donc, ne sont pas suffisamment développés. La note de Libération accuse Air France de déverser dans un laps de temps très court trop de passagers. Elle accuse également ADP, Aéroports de Paris, de freiner la mise en place des SAS automatisés de contrôle. Aéroports de Paris et Air France, joints par téléphone, se disent au contraire victimes de la situation, puisque les files d'attente sont autant de mauvaises pubs qu'ils s'efforcent de faire disparaître. Air France affirme avoir précisément modifié son programme de vol pour limiter le nombre de passagers qui débarquent au même moment. ADP, de son côté, dit avoir financé la mise en place des terminaux automatiques, financement qui dépend normalement de l'État. Ce matériel, il va falloir le tester, le valider. Début 2018, 87 SAS de contrôle des passeports et des empreintes digitales devraient être opérationnels. En attendant, la vraie carence pour ces deux acteurs, c'est le manque d'effectifs du côté de la PAF, la police aux frontières, alors que face à la menace terroriste, les contrôles sont renforcés et que tout cela prend du temps.
Laura Lavenne. La cellule djihadiste de Barcelone est désormais décapitée. 8 membres sur 12 sont donc morts, dont Younes Abou Yacoub, le conducteur de la camionnette qui a servi aux attaques des Ramblas et de Cambrils. La justice espagnole s'intéresse désormais aux 4 suspects encore en vie. Ils comparaissent depuis ce matin à Madrid dans un tribunal spécialisé dans les affaires de terrorisme. Le juge doit déterminer le rôle de chacun. À Madrid, Pierre Chaperon.
C'est dans ce bâtiment sombre au centre de Madrid que sont entendus depuis plusieurs heures les 4 rescapés des commandos des attentats de Catalogne. Un commando qui comptait 12 personnes au total. Les 8 autres ont été abattus. Leurs noms, Driss Oubakir, Mohamed Oulil Chemlal, Salah El Karib et Mohamed Allah. 3 d'entre eux ont vécu à Ripoll, ce village catalan au pied des Pyrénées. L'autre a été retrouvé à Alcanar, au sud de la région de Catalogne, là où une explosion d'une bonbonne de gaz a soufflé une maison dans la nuit de mercredi à jeudi. Les 4 présumés terroristes sont arrivés à la Audiencia Nacional peu avant 9h. Selon une information du quotidien El País, on devrait leur ordonner leur détention en prison sans condition ni caution au vu des délits qui leur seraient reprochés. Reste à savoir pour le juge en charge de cette affaire si cette cellule a bénéficié d'aide en Catalogne, en Espagne, voire dans un autre pays européen. Comment s'est-elle organisée et quand a débuté cette opération ? Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Retour en France où le ministère de l'Intérieur veut revoir le dispositif Sentinelle dès la semaine prochaine lors d'un prochain conseil de défense, annonce faite ce matin par Gérard Collomb. Pensé en 2015 dans une France post-attentat, le déploiement des 7000 militaires qui composent cette opération Sentinelle a depuis montré ses limites, son efficacité. En 2017, l'uniforme a été la cible privilégiée des attaques terroristes en France, notamment à Levallois-Perret le 9 août dernier. Invité de ce journal au téléphone, François Cornu-Gentil, rapporteur spécial du budget de la Défense. Bonjour.
Bonjour.
Alors le ministre de l'Intérieur veut rendre davantage mobile le dispositif, c'est-à-dire sur les 7000 militaires, on laissait la moitié sur des postes fixes et l'autre sur des postes plus souples pour la sécurisation d'événements publics comme prochainement, il prenait cet exemple, la braderie de Lille. Alors quelle est votre analyse de la situation actuelle et comment accueillez-vous cette volonté de davantage de flexibilité ?
Écoutez, avec un certain scepticisme, parce qu'en réalité, depuis qu'on est victime d'attentats terroristes avec une forte intensité, depuis 2 ans, c'est à peu près le discours que nous tiennent les gouvernements successifs depuis 2 ans. À chaque fois que l'on ne prend pas le temps de se poser la question de l'efficacité du dispositif, on améliore sa visibilité. Au risque d'une grande confusion sur les missions de l'armée. Est-ce que les missions de l'armée sont des missions de sécurité intérieure ? Est-ce que les missions de l'armée sont des missions de maintien de l'ordre ? Je suis très réservé sur ce point.
Quelles seraient vos préconisations alors, dans ce cas ?
De réfléchir, de pas être dans les éléments de langage. Finalement, à chaque fois que se produit un attentat, le gouvernement monte au créneau, moins pour rechercher l'efficacité que pour rassurer les Français. Et on voit bien que ce que l'on avance, c'est-à-dire la visibilité, elle n'a pas grande efficacité. On peut se demander si la présence de militaires n'est pas au contraire un élément incitatif pour un certain nombre d'énergumènes un peu excités qu'on dispose, qu'on a ici ou là. L'autre élément de langage, c'est le recours à de nouveaux effectifs. Hein. On annonce qu'on va embaucher dans les années qui viennent plusieurs milliers de gendarmes et de policiers. Mais donc, on est aussi dans une contradiction très très forte parce que on annonce finalement des crédits supplémentaires pour des embauches dans quelques temps, alors qu'il y a à peine un mois, on vient de couper 500 millions d'euros de crédits aux gendarmes et aux policiers. Vous voyez donc ce souci de communication immédiate nous plonge dans des contradictions assez grandes. Enfin, c'est le ministre de la Défense, de la Défense qui est responsable des Sentinelles, la ministre de la Défense, et c'est le ministre de l'Intérieur qui s'exprime sur le dispositif du ministre de la Défense, alors que le dispositif du ministère de l'Intérieur, c'est effectivement Vigipirate sur lequel on n'a plus aucune information. Vous voyez, on est dans une grande confusion à la fois sur les objectifs, sur le rôle des ministères, et je crois que le terrorisme nous confronte à des problèmes extrêmement nouveaux, qu'il fallait prendre le temps d'analyser ces problèmes, de voir vraiment dans ces nouvelles conditions auxquelles nous sommes affrontés, est-ce que les rôles des forces de police, de gendarmerie, des militaires doivent évoluer, et prendre le temps de mettre les choses à plat. Ça n'a pas été fait depuis 2 ou 3 ans.
Justement, François Cornu-Gentil, vous parlez du rôle des uns et des autres. Il est vrai que les militaires ne devaient pas s'éterniser dans les villes françaises pour protéger les Français. Le monde change, l'actualité tragique, on a décidé autrement ces dernières années. On sait que ces métiers de policiers et de soldats ne sont pas les mêmes, que les militaires sont davantage formés pour les opérations extérieures, pour aller faire la guerre à l'étranger, autrement dit. Alors, est-ce qu'on peut imaginer revoir le cœur de métier du soldat qui peut-être a diminué les opérations extérieures, leur donner une autre formation?
Je pense qu'effectivement, c'est la situation internationale nous oblige à repenser les missions. Et c'est ce qu'on refuse de faire depuis un certain temps. Alors je crois que sous le coup des premiers attentats, c'était à la limite compréhensible. Il fallait effectivement faire quelque chose. Donc déployer des militaires dans la rue, ça pouvait avoir un sens. Avec le recul du temps, avec le mode d'action des terroristes qui évolue comme on le voit, je pense qu'il faut pas agir au jour le jour, pas agir simplement au lendemain d'un attentat, mais se donner les moyens d'une réflexion en profondeur sur les missions. Vous voyez, recruter des effectifs, est-ce que c'est la bonne solution? Prenons l'exemple de la Seine-Saint-Denis, hein, qui est un département en difficulté. Redéployer des forces de police dans la rue, est-ce que c'est suffisant? Alors qu'on sait en réalité que la police judiciaire est très en sous-effectif dans ce département. Donc vous voyez, le souci de l'affichage de chiffres, de recrutement, se fait au détriment de l'efficacité, et je pense qu'il faut sortir de cette spirale communicante qui est aussi une spirale de l'impuissance.
Comment ça fonctionne chez nos voisins européens? L'Angleterre, l'Allemagne ont connu également des attentats. Comment ils sont organisés pour protéger leur population? Est-ce qu'ils ont des solutions efficaces?
Alors, je crois que c'est très variable d'un pays à l'autre. Le pays, évidemment, qui est le plus confronté au terrorisme, c'est Israël. Je crois qu'Israël, qui est confronté à un dispositif au moins aussi puissant que celui qui est le nôtre, eh bien, les redéfinitions de chaque missions policières, armées, etc., ont été très approfondies. La formation de la population a été forte aussi. Il y a eu une sorte de révolution culturelle en matière de sécurité dont on est très loin en France.
Je vous remercie beaucoup, François Cornu-Gentil, rapporteur spécial du budget de la Défense. Mon instinct, à l'origine, allait vers un retrait, mais les décisions sont très différentes lorsque vous êtes dans le bureau ovale. Le président américain a ouvertement reconnu qu'il avait fait volte-face sur le dossier de l'Afghanistan, c'était hier soir. On se souvient encore de son tweet en 2013, « Quittons l'Afghanistan, nos troupes se font tuer et nous gaspillons des milliards ». La présence américaine a été lancée après les attentats du 11 septembre pour déloger le régime taliban, à l'époque au pouvoir à Kaboul. 16 années ont passé, c'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis pour la laquelle l'armée américaine a payé un lourd tribut, 2 400 morts, 20 000 blessés, 110 milliards de dollars d'aide à la reconstruction. Mais Donald Trump se retrouve confronté au même défi que ses prédécesseurs, des talibans qui continuent de commettre des attentats et à grignoter du terrain, et un gouvernement afghan affaibli par des rivalités ethniques et la corruption, et cela malgré le soutien de l'Occident. Conclusion du président américain, un retrait précipité serait contre-productif. Il veut même envoyer des soldats supplémentaires, ils sont déjà 8 400 au sein d'une force internationale. Autant dire que les talibans n'ont pas perdu de temps pour réagir à cette annonce. Ils promettent un nouveau cimetière aux Américains s'ils s'obstinent à rester dans le pays. Une décision en revanche saluée par les autorités afghanes. À Kaboul, la correspondance de Sonia Ghezali.
Un nouveau chapitre s'ouvre dans nos relations, a réagi le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, peu après le discours du président américain. Le partenariat avec les États-Unis est plus fort que jamais pour surmonter la menace du terrorisme qui nous concerne tous, s'est exclamé le chef de l'État afghan, Ashraf Ghani. Plus tôt, c'est le général John Nicholson, le commandant des forces américaines et chef de l'OTAN en Afghanistan, qui écrivait sur son compte Twitter, je cite, « Les talibans ne peuvent plus être vainqueurs. Il est temps de renoncer à la violence et d'agir pour la réconciliation. » Les propos du président américain sur le rôle ambigu du Pakistan sont ici largement plébiscités. Le Pakistan est un refuge pour les terroristes, a martelé Donald Trump. C'est la première fois qu'un chef de l'État tient de tels propos si ouvertement, soulignent certains analystes. Les autorités afghanes accusent régulièrement leurs voisins pakistanais de soutenir les talibans qui contrôlent ou disputent 40% du territoire en Afghanistan. Les insurgés ont réagi sans surprise. L'Afghanistan va devenir un cimetière pour les États-Unis, ont-ils déclaré dans un communiqué promettant de continuer à combattre les troupes étrangères tant qu'elles seront sur le territoire afghan. Kaboul, Sonia Ghezali, RFI pour France Inter.
Un nouveau tremblement de terre hier soir en Italie. L'Italie qui s'apprête à commémorer après-demain le premier anniversaire du séisme qui avait fait 299 morts à Amatrice et dans les communes voisines dans le centre du pays. Cette fois, c'est l'île très touristique d'Ischia, au large de Naples, qui a été touchée. 2 morts au moins, une trentaine de blessés légers, un séisme de magnitude 4. Les dégâts se concentrent sur les villes de Casamicciola et Lacco Ameno. Plusieurs immeubles se sont effondrés, d'autres menacent désormais de s'écrouler. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour tenter de sauver un enfant encore prisonnier des décombres. Sur place à Ischia, pour France Inter, Antonio Gallofaro.
Voilà près de 16 heures que le petit Chiro est sous les décombres de sa maison. Les pompiers s'activent toujours pour l'en faire sortir. Pendant ce temps, ils lui parlent, ils lui donnent à boire. Son grand frère a été sauvé en fin de matinée. Le petit dernier de la famille, un nouveau-né, cette nuit. La fratrie a pu se protéger de l'effondrement de leur maison en restant sous un lit. Leurs parents, eux, ont été sauvés quelques heures après la secousse. La famille est à Casamicciola, la village de quelques 8000 habitants, nord d'Ischia, le plus frappé par le séisme. Mais en ce mois d'août, de nombreux touristes se trouvent sur l'île, l'un des lieux les plus prisés d'Italie. Quelques maisons se sont effondrées après le séisme de magnitude 4 hier, peu avant. Avant 21h, plusieurs familles ont pu sortir des ruines. Mais 2 femmes ont péri sous les écroulements. L'une a été retrouvée sous les ruines d'une église, l'autre sous celle de sa maison. Le drame a fait par ailleurs 2600 déplacés selon la protection civile. Aucune tente ne sera montée pour les accueillir. Ils devraient être logés dans les structures déjà existantes sur l'île. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Le sport avec le mondial de rugby féminin en Irlande et une équipe de France aux portes de l'exploit. Depuis le début du tournoi 2017, les Bleus ont donné l'image d'un rouleau compresseur. 3 matchs, 3 victoires, dont la dernière vendredi dernier, donc face à l'Irlande. Ce soir, ce sera du lourd. Un immense défi à relever, sortir l'Angleterre tenante du titre en demi-finale et accéder enfin à la finale après 6 échecs. La troisième ligne, Safi Ndiaye.
C'est ce qu'on a dit après l'Irlande, c'est qu'on était contente, mais on n'a rien gagné. C'est bien, c'est super d'être en demi-finale, mais on se souvient que des champions du monde. Donc il va falloir rester concentré jusqu'au bout parce que on fait des fins de match pas top. Et je pense qu'une demi, ça va jouer dans les dernières 20 minutes. Donc on a les armes, on a tout ce qu'il faut dans la boîte à outils. Et avec le groupe qu'on a, pourquoi pas rêver à une finale. Donc pas que ça nous inhibe, faut rester comme on est.
Safi Ndiaye avec Fanny Lechevestrier. En football, gros enjeu ce soir pour Nice. Match de barrage retour face à Naples. Les Napolitains s'étaient imposés 2-0 à l'aller à domicile. Objectif des Rouges et Noirs, rejoindre Monaco et le Paris Saint-Germain en phase finale de la Ligue des Champions. Les vacances d'été ne riment pas toujours avec coquillages et crustacés. Les mordus du ski apprécient les Alpes françaises, et en particulier les glaciers de Tignes, des Deux Alpes et de Val d'Isère, où il est possible de chausser les skis entre fin juin et début août. La fenêtre de Tignes glaciaire est étroite. Ajoutez à cela la fonte accélérée des glaciers des Alpes, études scientifiques à l'appui. On sait désormais que les formations glaciaires réagissent plus fortement que prévu au réchauffement climatique. Conséquence, cet été, les conditions ont été moins bonnes que d'habitude, Martin Delacour.
Oui, avec Lucifer, cette vague de chaleur qui a notamment frappé les Alpes cet été, un nom évocateur, et Lucifer a succédé à un hiver avec peu de neige. Les ingrédients sont donc réunis pour que les glaciers fondent à toute vitesse. Les stations ont quand même ouvert leurs portes, c'était le 24 juin pour Tignes. Sébastien Marc est le directeur marketing de la station savoyarde. Il a pu chausser les skis en juillet.
De toute façon, c'est un plaisir de chausser ses skis, quel que soit le moment. Après, c'est vrai que ça nécessite des attentions particulières, mais ça reste un moment de plaisir et de communion avec la nature. Parce que c'est pas que le sport, c'est aussi la communion avec la nature.
Une merveille de la nature en souffrance. Le glacier de Tignes a fermé le 4 août, deux jours avant la date prévue. Le blanc de la glace a laissé place au gris des pierres qui restent en surface. La neige se fait rare, il faut donc la préserver. Gilles Van Neul est le président de l'Office de tourisme des Deux Alpes.
Nos glaciers font quand même moins que certains glaciers qui ne sont pas exploités. L'hiver, on a créé des pièges à neige, c'est-à-dire qu'on essaye d'amasser de plus en plus de neige qu'on dame régulièrement pour qu'elle reste fixée. Et sur l'été, on va mettre en place cette neige de culture pour réalimenter le manteau neigeux.
Même si la glace est entretenue, plusieurs études prévoient la fin des glaciers qui se trouvent en dessous de 3500 mètres d'ici la fin du siècle.
Mathieu Delacour, France Inter, il est 13h20.